Honk out.
Ready, gentlemen?
Le Symposium d'escrime de Québec est le premier événement du genre dans la capitale. Il a la particularité de rassembler des amateurs de culture écossaise, japonaise, allemande et italienne. Tout ce beau monde se réunit pour échanger sur un art tombé dans les oubliettes de l'histoire, le combat à l'épée.
Je m'appelle Maxime Chouinard, je suis enseignant de Shinkendo au Cégep Sainte-Foy, puis je suis l'organisateur du symposium d'escrime de Québec qui se déroule aujourd'hui.
C'est quoi du Shinkendo?
C'est le maniement du sabre japonais. Ça a été développé dans les années 80 par Obata Toshijiro Sensei. C'est un amalgame de plusieurs écoles traditionnelles. Nous, on met beaucoup l'emphase sur l'aspect pratique de la chose. Il faut que la technique soit réaliste, il faut que la technique soit applicable. Ben moi, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est montrer un peu la diversité qu'il y a dans l'univers de l'escrime. Puis dans l'univers des arts martiaux aussi, parce que pour le public en général, arts martiaux, ça sonne asiatique. On pense au film de Bruce Lee, on pense à Tigre et Dragon, mais nos ancêtres, nous, les Européens, pratiquaient aussi des arts martiaux qui ont malheureusement été oubliés, mais qui sont aujourd'hui reconstruits par des amateurs, des professionnels dans le domaine à partir de vieux manuscrits. Puis je voulais faire découvrir ça aux pratiquants d'arts martiaux, puis essayer de rejoindre les deux groupes, essayer de créer des liens. Je pense que c'était ça le but principal de l'événement. Ben moi, je conseille à tout le monde d'au moins essayer un art martial, parce que on est dans une société beaucoup qui essaie de cacher la violence, cacher l'agression, essayer de faire semblant que ça n'existe pas. Puis faut être réaliste, on a tous une part de violence en nous, et puis si on n'essaie pas de la découvrir puis de l'accepter pour la contrôler, je pense que ça peut exploser à tout moment. À l'école, j'étais quelqu'un d'assez timide, réservé, puis je me faisais carrer, franchement. Et puis mes parents un jour en ont eu assez, puis ils m'ont dit « Mais on va t'inscrire au karaté, mon gars ». Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu la piqûre tout de suite. J'ai été au Japon m'entraîner. J'ai fait des compétitions. Aujourd'hui, je pratique plus le Kyokushin, malheureusement. Mais je me suis versé dans d'autres arts martiaux. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien. J'ai essayé le Krav Maga. J'ai été aussi en Irlande l'année passée. À apprendre le bâton irlandais puis la boxe. Puis j'essaie de me diversifier, d'être un artiste martial complet, si on veut.
Là, tu HL à l'école?
non, mais je me fais HL à d'autres places, mais une fois que tu connais, je pense, une fois que tu connais ta force, une fois que tu connais ce que tu es capable de faire, ça ne tente pas nécessairement de l'appliquer. Il y a plusieurs situations dans ma vie où j'aurais pu appliquer ce que je sais, mais une fois que tu sais que tu n'as plus rien à prouver, ça te passe par-dessus la tête.
Je suis le sergent-major Simon Farnell Morisset du 78e Fraser Highlanders. Essentiellement, c'est une organisation internationale à but non lucratif. A comme mission de faire la promotion de l'histoire et du fait écossais, ainsi que l'histoire de la guerre de 7 ans et l'histoire militaire générale et la mission de Québec. C'est résolument trois volets, c'est l'histoire, la culture et le développement de la jeunesse. L'histoire du régiment commence en 1754 en Amérique du Nord. Le régiment participa à la bataille, à la guerre de 7 ans, dont entre autres la bataille des Plaines d'Abraham. Et le régiment était dissous au Canada à la fin de cette guerre-là. Alors, beaucoup de ces hommes-là sont restés et se sont intégrés à la culture locale. Alors, ce qu'on fait concrètement, on a plusieurs volets. On a un pipe band qu'on appelle une fanfare de cornemuse et de tambour. On a un club social, surtout, qui fait des événements à saveur et à culture écossaise. Et on a le EDS, qu'on appelle le projet d'escouade, de démonstration d'élite, qui est, si vous voulez, c'est le volet de développement de la jeunesse, où on entraîne des jeunes en maniement de fusils, des fusils d'époque, c'est-à-dire des fusils à silex, les Brown Bess, aux manœuvres militaires et aux combats à l'épée. Les épées étaient, c'était pas des épées standardisées d'abord. C'était pas chaque homme ne se faisait pas donner une épée par le gouvernement quand je joignais à l'armée. La plupart d'entre eux amenaient leur propre épée. Alors c'était certainement très variable. Mais on parle d'épées basket hilt, c'est-à-dire qui protègent très bien la main, qui s'appellent des claybeck, qui veut dire petite épée en gaélique écossais. Petite épée, mais c'est quand même des très grandes épées. On parle d'épées seulement à une main, qui la distingue de la Claymore, qui est une épée à deux mains. Alors, c'est une épée à une main qui protège extrêmement bien le poignet.
C'est quoi la taille de l'épée?
Ça tombait dans ce qui était variable. Ça peut aller de n'importe où, de moins d'un mètre à un mètre et demi.
C'était quoi le cri de guerre des Frasers?
Oh, traditionnellement, il y avait un cri de guerre en gaélique qui parlait, je m'en rappelle pas, mais je me rappelle pas du cri de guerre, c'est-à-dire, mais essentiellement, ça parlait des marécages des terres du Lord Lovett, qui était le chef du clan. En dehors de leur tenue très, très typiquement écossaise, qui, en tant que telle, faisait peur aux ennemis, les Écossais avaient aussi leur cornemuse, qui était un instrument qui était considéré une arme en part entière, parce à cause de l'effet que ça avait sur un champ de bataille. C'était quelque chose qu'on entendait et qui était terrifiant pour les ennemis. Il y avait aussi que les Écossais avaient la grande tendance de préférer se battre très rapprochés de leur ennemi. C'est pour ça qu'ils traînaient encore leurs grosses épées, quand la plupart des autres armées européennes traînaient des petites épées, voire même les coloniaux n'avaient même plus d'épées. Traînaient des haches qui servaient tant comme marteau que comme arme. Les Écossais adoraient leur épée et adoraient les utiliser. À la bataille des Plaines d'Abraham, par exemple, ça a été une bataille très courte. Les forces britanniques ont tiré deux coups. Et après ça, il y a quelqu'un dans les rangs écossais qui a décidé que c'était assez. Les Français étaient probablement déjà en déroute. Alors, les Écossais ont lâché leurs fusils, quelque chose qui se faisait presque jamais dans un champ de bataille, pour sortir leur épée, pour pouvoir rentrer dans les corps français. C'était probablement la dernière fois au monde que ce genre d'attaque-là, qui s'appelait traditionnellement le Highland Charge, ou la charge du nord de l'Écosse, a été utilisé avec effet positif dans une guerre.
C'est ça, parce que la bataille était déjà gagnée, heureusement.
Oui, heureusement. Mais la bataille était déjà gagnée, c'est vrai, sauf que y a des histoires documentées d'Écossais qui ont chassé pendant plusieurs kilomètres les Français qui essayaient de fuir et qui avaient des espèces de démons en kilt avec des épées qui leur couraient après. On peut imaginer que c'était probablement très effrayant.
Je m'appelle Patrick Demarquis, je suis un des fondateurs et le directeur de l'école d'escrime ancienne Les Duellistes à Montréal. Les Duellistes, c'est une école d'escrime ancienne. L'escrime ancienne, c'est tout le corpus de techniques martiales qui était utilisé au Moyen-Âge en Europe occidentale.
Et là, vous basez un traité en particulier, là.
Alors, pour le cours d'épée longue, oui, on utilise une source principale, qui est celle des vers de Lichtenauer, glosés et commentés par Sigmund Ringeck.
Sigmund Ringeck et Lichtenauer étaient des maîtres escrimeurs allemands du 15e siècle. Ils ont conçu le manuscrit illustré de façon cryptée pour empêcher la lecture par des non-initiés. Le système de Lichtenauer a influencé tous les manieurs d'épée de l'Allemagne médiévale. Vraisemblablement, son influence se fait encore sentir aujourd'hui.
Donc c'est notre source principale, puis on essaye de recouper évidemment pour essayer d'aller étoffer un petit peu notre connaissance qui pour l'instant reste quand même partielle. Les gens ont tendance à penser que les armes étaient extrêmement lourdes, que c'était des barbares et des grosses bêtes fortes qui se tapaient dessus en hurlant, et on se rend compte à la lecture des traités, à leur interprétation, qu'au contraire c'est une escrime d'une grande finesse qui allie la tactique et de grandes possibilités techniques, absolument. Le fleuret est une arme sportive qui ne travaille que d'estoc, alors que l'épée longue, qui est de 500 ans ou à peu près son aîné, est une arme qui, elle, utilise autant l'estoc que la taille, qui est évidemment un peu plus longue, plus lourde aussi, qui s'utilise à deux mains, qui est une nouveauté au Moyen-Âge en l'occurrence, d'utiliser une arme à deux mains, avec les deux mains dessus. C'est quand même assez neuf à la fin du Moyen-Âge. Mais il y a une filiation entre l'une et l'autre. Il n'y a pas de rupture à un moment ou à un autre. Il y a une rupture dans l'utilisation d'une certaine escrime pour aller vers une autre.
Et qu'est-ce qui distingue là, justement l'école allemande par rapport à l'école italienne, par exemple?
Fior de Liberi, puis ça n'engage que lui, évidemment, mais allez savoir si ça n'a pas créé une façon de se battre en Italie. Va beaucoup justement s'appuyer sur la lutte et va transposer énormément de techniques où on va travailler proche de l'adversaire pour aller mettre les mains dessus, alors que chez les Allemands par exemple, c'est des choses qu'on utilise mais de façon beaucoup moins présente en fait. Alors sauf que c'est dans les différences qu'on peut retrouver, comme il y en a évidemment d'autres.
C'était un reportage de François G. Couillard.